De retour, j'ai en ma compagnie M. David Bergeron. M. Bergeron est travailleur social dans la région de l'Estrie. Mais vous avez, M. Bergeron, je dirais une perspective qui est plus large que ça parce que vous vous adressez, si je peux dire, à l'État québécois. Vous avez écrit une lettre ouverte et fait d'autres interventions dans le passé pour dénoncer la faillite des services de soutien à domicile. Et ça va nous faire plaisir de vous entendre à ce sujet parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Ben oui, c'est un plaisir d'être avec vous, François. C'est en début d'après-midi. Oui.
Parce que d'abord, vous avez fait vous-même, vous avez fait une maîtrise, je pense, parlait de la situation des personnes en situation de handicap, le soutien à domicile et l'intervention psychosociale. Et plus récemment, vous avez écrit aussi dans les journaux pour dénoncer la situation que la réforme du système de santé dans les dernières années. Une réforme qui est catastrophique et parce que beaucoup trop bureaucratique.
Oui, tout à fait. En fait, ce que je constate, une techno-bureaucratisation de la pratique, ça se trame sur, c'est pas d'hier, mais avec plus de force encore depuis 2003, là, avec la réforme après ça 2015. Puis aussi les outils que l'on utilise, là, l'outil de cheminement clinique, l'Oxy, là, qui est très lourd. Là, moi, c'est mon modèle conceptuel, c'est le PPH, le processus de production du handicap, là, qui a guidé aussi mes travaux à la maîtrise, là, quand j'ai rédigé mon mémoire de maîtrise à ce sujet-là. Puis, ce que je m'aperçois, ce que je constate, c'est le manque de préparation et de vision des intervenants que nous formons, que nous sommes en partie travailleurs sociaux, mais de plus en plus, on engage aussi, que ce soit des infirmières, on a même des kinésiothérapeutes, des fois, qui sont engagés. Donc, on utilise un Oxy qui est un modèle biomédical. Hein. Ça a été construit ça par le Centre d'expertise en gériatrie en Estrie. Mais on l'applique un peu à toutes les clientèles, là, que ce soit en déficience physique, DI, TSA aussi, les troubles du spectre de l'autisme.
Donc
on utilise cet outil-là un petit peu à toutes les sauces. Oui.
C'est un outil, en fait, c'est un questionnaire. C'est comment faire le tour de la question, mais ça devient très lourd.
Oui, tout à fait. Puis moi, disons qu'on fait référence au PPH, c'est un obstacle à la rencontre avec le sujet ou la personne en situation de handicap, plutôt que de faciliter l'échange entourant l'expérience du handicap et, disons, les représentations, les projets, les aspirations. On est confiné un peu aux besoins, aux incapacités, besoins entendus dans un sens biomédical encore là, on relève les incapacités et ça suggère ou ça débloque, ça débouche sur une vision un peu instrumentaliste ou comment dire, où on va penser qu'un service peut répondre à une incapacité dépistée à l'aide de l'outil. Donc, alors que la personne n'a pas voix au chapitre. C'est ça qui est déplorable et j'ai toujours trouver ça avant même mes études à la maîtrise. Et c'est ce qui m'a fait, puis là, plus récemment, là, écrire dans les journaux pour dénoncer ça. Parce qu'on sait que les listes d'attente, ce qui m'a fait écrire au mois d'août, pareillement, c'est que on se rend compte que c'est plusieurs centaines, voire des milliers de personnes en attente de services. Puis ça, c'est juste dans un programme clientèle qu'on va dire. Et si on libérait les forces vives, les intervenants, les centaines d'intervenants que nous sommes, ben peut-être bien que on pourrait utiliser ces compétences-là, les professionnels, à travailler autrement au niveau du développement humain plutôt, dans les communautés et auprès des gens, pour trouver des solutions avec eux, plutôt que leur imposer des services ou leur...
Parce que ce formulaire-là, on va dire ça comme ça, ou cet outil de cheminement clinique, c'est pour amener à identifier des manifestations extérieures du handicap et d'y coller des solutions institutionnelles. Mais la personne n'est pas prise en charge.
C'est exactement ça. On débarque avec un formulaire, disons, on va parler des services d'accueil. Moi, souvent, j'ai allé réviser ça, mais pour faire un bon travail, moi, j'ai la chance de ne pas avoir à le passer en revue d'un couvert à l'autre, mais ceux qui rencontrent une première fois la personne qui est en situation de handicap, doit subir cette entrevue-là qui va durer 2 heures. Puis des fois, on va la rappeler pour compléter cette évaluation-là. Mais au final, ce que je constate aussi, c'est que bon, ça a été travaillé pour mettre en place des services. Donc, c'est une vision programmée de services toute faite, là. Mais c'est pas vrai que les services qu'on offre coïncident ou correspondent aux besoins ou à ce que la personne souhaite avoir ou obtenir.
Oui, parce que,
Donc, il y a comme...
oui, c'est, je vois ce que, en fait, ce que vous dites, et on peut l'entrevoir, c'est que d'identifier une situation ne correspond pas nécessairement à ce que la personne attend du système.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que la subjectivité, la perception, puis moi, comme travailleur social, ben le PPH, le processus de production d'handicap, est en phase un peu avec ma vision de l'humain, du développement humain et des communautés. Donc, moi, quand je travaille ou qu'on m'impose un outil comme l'OXI, et je suis pas le seul à le dénoncer, les syndicats aussi, les travailleurs sociaux et d'autres professionnels trouvent que c'est un outil carré. Ce qui arrive, c'est que les jeunes intervenants qui arrivent des universités ou d'autres formations, ben on leur enseigne ça, on leur donne 2 jours de formation sur l'OXI, et ils ne voient les situations, les phénomènes devant eux qu'à travers le prisme de l'OXI.
Ouais.
Donc, d'une vision biomédicale qui fait abstraction des dimensions expérientielles et subjectives de la personne. Donc, ils ont dépensé beaucoup d'énergie à se faire une tête de ça, puis après ça, ben ils ne travaillent qu'avec ça. Fait que c'est ça que je trouve qui a aucun bon sens. En plus de manger tout notre temps, ben ça aide en rien.
Parce qu'on parle de 2 heures d'entrevue. On peut imaginer que la personne chez qui vous débarquez, 2 heures d'entrevue, c'est peut-être beaucoup à gérer dans la même journée.
Oui, puis c'est une multitude de questions qui a des questions générales, mais qui se déclinent en sous-questions. On fait un inventaire des systèmes et des fois, ça s'applique plus ou moins à la personne qu'on a devant nous, plutôt que de laisser l'entrevue un peu en fonction de ce qu'on convient important de noter ou de... Tu sais, moi, je pense que ça prend tout le temps une validation de la personne qu'on a en face. Ça donne rien d'aborder certains aspects qui ne comptent pas. Souvent, la personne est le mieux à même de savoir qu'est-ce qui compte pour elle. Il faut se le taper, comme on dit.
Vous me comptez ça, puis j'ai comme une image d'une pièce absurde, là, genre Ionesco ou un scénario kafkaïen, là où il faille absolument remplir le questionnaire, même si ça n'a pas de pertinence pour vous. Vous allez devoir me répondre, même si les questions amènent des réponses que vous devez presque inventer, parce que ce ne sont pas celles qui vous viendraient spontanément à l'esprit. Et l'autre partie de votre intervention, si je peux dire, ou de votre appel à une correction du système, c'est que, par ailleurs, les ressources que ce formulaire-là sous-tend n'existent pas toujours.
C'est exact. Donc, ce qui est d'autant choquant pour moi qui est travailleur social, qui croit en première ligne, on doit travailler aux bonnes choses, je me dis, ça agit comme une forme de laine minérale ou d'isolant entre les besoins criants de la communauté ou les personnes en besoin ou en situation de handicap et les ressources disponibles à la clé. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on passe ce formulaire-là et puis là, tu peux attendre des mois, des années. Une fois après avoir passé l'entrevue et d'être sans service ou à peu près aucun, avoir des miettes ou de dire ben coudon, j'attends. Et on fait aussi miroiter que on va avoir éventuellement un intervenant pivot qui nous aidera à se comprendre dans un système qui est de moins en moins humain.
À aiguiller la personne vers les bons services, mais là, il y a un manque de personnel, puis de toute façon, les services peuvent ne pas être disponibles dans la région.
Oui, puis ce qu'on constate aussi, c'est que les A3S, les auxiliaires santé et services sociaux du public, c'est comme si le système, on n'encourage plus le recours à ces ressources-là de première importance qui sont nos yeux, nos oreilles ou qui nous aident vraiment et qui sont des employés de l'État. De plus en plus, on reconduit vers les entreprises d'économie sociale, mais le chèque emploi-service qui était le lot des personnes handicapées là, qui a été créé avec la loi en 76 par Denis Lazur, l'Office des personnes handicapées et tout ça. Mais maintenant, on les utilise un peu comme, on va dire, du cheap labor ou arrangez-vous avec ce que vous pouvez. On retourne la personne à ses capacités.
Oui, puis on a l'impression qu'au bout du compte, la solution qui va se présenter pour la personne qui a besoin d'un service, ça va être ou bien une institutionnalisation, ou bien il va falloir qu'elle se débrouille par elle-même avec des services privés qui ne sont pas toujours possibles pour des raisons financières évidentes.
Oui, bien, vous revenez à la question de la relocalisation en résidence privée, ce qui fait que finalement, il y a une privatisation parce que faute, comme je l'ai dit dans mon article, faute d'avoir accès aux services requis pour favoriser un maintien, que la personne identifie une chose, bien, le coffre est vide. Alors, finalement, les intervenants que nous sommes, on est un peu complices de ça quand on y travaille. Ben, c'est comme si moi j'entends des gens autour de moi dire ben on n'a pas le choix, que tu sais, il faut préparer la personne à l'hébergement dans le privé, mais pour moi, c'est un non-sens.
Ben, Monsieur Bergeron, on va en reparler parce que c'est certainement quelque chose d'essentiel pour qui nous sommes. Ben, merci beaucoup.